du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro du mois de juin du coq à l'âne. Alors, pour ce numéro, les coqualiens du mois, à ma droite, Pierre-Louis Rouny, Bruno André, Patrick Faure, messieurs, bonjour.
Salut.
Bonjour à tous.
Et à ma
bonjour.
Gauche.
À ma gauche.
À ma gauche, seul contre tous, Jean-Claude Hérault.
Comme d'habitude.
Bon, j'espère que vous allez bien. On a une émission avec un sujet important à débattre, hein, vous vous en doutez. Petite mise en condition, si vous le voulez bien, pour démarrer.
Parce qu'ici en France, bah, y a trop de paperasse, y a trop de charges, y a trop de normes, y a trop d'impôts, c'est insupportable.
Ouais, et trop de grève aussi. Moi, la CGT, j'en peux plus.
Ça vous a raison, je suis d'accord avec vous, c'est une plaie, mais enfin, les syndicats sont casse-pieds dans tous les pays du monde.
Ah non, pas en Chine.
Pas ni en Algérie.
Ah oui, d'accord, bah, d'accord. Là, je comprends mieux, en fait, vous êtes devenus des réactionnaires.
Non mais on est juste lucide, Claude. La France va mal. Vous le voyez, on se fait saigner de tous les côtés.
Ouais, et pour quel résultat? La pauvreté, l'insécurité qui augmente. Moi, quand je rentre chez moi, Claude, j'ai peur.
À Montreuil, chez les bobos.
Bah, c'est le 9-3 quand même.
Moi, c'est la mentalité française qui me dérange. L'état d'esprit. Les gens critiquent trop, sont trop négatifs.
Je ne comprends pas bien. Vous avez tous voté pour Macron. Bah, vous devriez être content. La France s'est remise en marche, enfin, soi-disant.
Oui, mais ça reste un pays de râleurs. C'est pas le président qu'il faut changer, hein. Mais le peuple. Mais raison. Claude, comment voulez-vous que ça marche? En France, on a fait un gâteau avec des ch'tis, des Alsaciens, des Corses, puis on a rajouté une couche avec des Polonais, des Portugais, des Italiens. Et comme ça suffisait pas, on a saupoudré le tout d'Arabes, de Chinois, je parle même pas des Noirs.
Pourquoi je parle pas des Noirs?
Non mais c'est une expression... Charles, sois pas parano, c'est juste comme ça, on le dit.
Mais enfin, si j'avais dit je parle même pas des Juifs, t'aurais réagi comment?
Ah, il en a même pas parlé des Juifs. Pourquoi d'ailleurs? Ils font pas partie du gâteau, David? À moins qu'ils soient au-dessus du gâteau.
Bon, et arrêtez tous les deux là, hein. Et Claude a fait 300 km pour essayer de comprendre.
Oh, donc... Suce boulon chef, on t'a pas sonné, d'accord?
Exactement. Voilà, c'est formidable. Regardez-vous. On s'engueule, on discute, on s'échauffe parfois. Mais c'est ça la France qu'on aime, c'est ça la richesse de ce pays dont vous faites partie.
Voilà. Comme ça.
C'était qui, à quel repas?
Ça résume bien.
C'est un petit résumé. Parce que, en fait, le film est ressorti il y a quelques temps. Je suis tombé sur ce passage-là, j'étais en train de zapper. C'était qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, le deuxième
vu,
volet.
Je vais le regarder.
Et donc, ce passage, je me dis, tiens, c'est marrant. C'est quelque chose
ça me parle.
Qui pourrait vraiment bien lancer l'émission du coq à l'âne. Voilà. Bon. Alors, je vous ai convoqué en quatrième vitesse, les amis, pour ce dernier numéro, hein, avec une actualité chaude, hein, résultat des européennes, dissolution de l'Assemblée nationale. Pour tout vous dire, c'est ce que j'expliquais à Jean-Claude avant d'arriver. Avant les élections, j'avais prévu d'inviter Louis Albran, parce qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait une victoire du RN dimanche soir. Et donc, je m'étais dit, on va inviter Loulou. Comme ça, Loulou, comme il est RN, on lui demandera un petit peu ses impressions. Le problème, c'est que il y a eu la surprise du chef, hein, la dissolution. Donc, on n'est pas rentré en campagne, mais tout comme. En plus, Loulou, vous le savez, se présente. Donc, j'ai dit, on fait sans invité, on fait collégial entre nous. On va discuter de tout ça. Alors, il y a plusieurs angles que nous allons attaquer. On va débuter avec cette première question déjà. Chacun, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été surpris dimanche soir de cette dissolution? Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison? Est-ce un coup de poker? Est-ce que c'est un jeu dangereux? Est-ce qu'il avait le choix? Pas le choix. Qui veut commencer le débat? Jean-Claude, peut-être.
Moi, j'ai été surpris, oui, effectivement, je ne vais pas le nier. Après réflexion, effectivement, il avait plus de majorité à l'Assemblée nationale. Il savait que il allait de nouveau utiliser 49-3 pour faire passer les différents budgets qu'on a l'habitude de voir. Donc, je pense qu'il voulait pas repartir dans cette mécanique du 49-3. Par contre, là, je pense qu'il a vraiment trop anticipé parce que, quand même, le contexte était pas favorable à mon sens. C'est quand même les Jeux Olympiques. C'est quand même une fois tous les 100 ans que la France accueille les Jeux Olympiques. Et là, on se retrouve dans une espèce de situation incroyable où quelques jours avant les Jeux Olympiques, on ne sait pas encore qui sera le Premier ministre. On ne sait rien, quoi. Y compris, il y a des questions de sécurité. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais oui, j'ai été surpris. Oui, je pense qu'il fallait un jour ou l'autre qu'il arrive à cette décision, mais ça a été, à mon sens, trop anticipé.
Mmh. Ah, pour ma part, oui, j'étais devant la télé, j'écoutais un peu Alain Duhamel, qui disait « Non, mais vous comprenez, jamais il dissolvera, ça s'est jamais fait, vous l'avez vu. » 20h30, bing, ça tombe. Et c'est vrai que c'est la douche froide, quoi. Lui qui voulait aller se baigner dans la Seine, ils ont tous mis dans le grand bain, là. Mais l'eau était vraiment froide, là pour se remettre en piste. En fait, il a créé un climat qui fait des Européennes... un contexte de présidentiel, ouais. Par le vote, et comme on sait comment ça se passe, après des présidentielles, il y a des législatives, et normalement on entérine le vote précédent. Donc j'ai peur qu'il ait donné vraiment beaucoup d'élan au RN. Il se met en position.
RN a-t-il vraiment besoin d'élan? Non, mais là, au vu des résultats, on peut se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin.
Il conforte la position. Ouais. Et le souci, c'est de savoir, maintenant on va savoir ce que la gauche et la droite a dans le froc.
Ouais.
S'ils sont capables de prendre la mesure de la situation. Et comme avec LFI, il y a des idées de génie, je ne suis pas sûr que la gauche ait pris la bonne décision en intégrant LFI.
C'est très bon ça, c'est slogan. LFI, des idées de génie. Qu'est-ce que tu as à dire, mon petit Bruno?
Moi aussi, j'ai été extrêmement surpris. Je ne m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Je m'étais guère intéressé à la campagne européenne. Je suis allé voter à 17h57. Malgré tout, quand même.
C'est bien.
Je m'y attendais pas, et pour moi, il a fait un caprice, quoi. Il a été vexé comme un pot d'avoir perdu. Il n'y avait rien de réfléchi à ce qu'il a fait. C'est sûr que l'Assemblée nationale ne fonctionnait pas bien. C'était certainement compliqué pour lui de gouverner, sachant qu'il n'avait pas de majorité, et que je ne vais pas faire plaisir à Jean-Claude, mais on est là pour se titiller un petit peu. Je pense que la France insoumise a quand même foutu un beau bordel à l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'à un moment donné, ça devenait insupportable. Il a choisi de dissoudre, mais c'est une réaction, à mon avis...
Épidermique,
voilà, de colère. Pas réfléchi, parce que c'est vrai qu'à 15 jours, 3 semaines ou un mois des JO, quand même, faire une campagne aussi courte, c'est quand même compliqué. Attaquer avec des problèmes de sécurité, mais qui va être Premier ministre, qui va gérer tout ça et tout, mais moi, enfin, qui va être ministre de l'Intérieur quand même, parce qu'il y a quand même un problème.
Éric Ciotti.
Non, mais là, non. Voilà, mais...
Oui, on va en parler.
Non, mais voilà, moi, ça me... Alors, ça lui donnait du temps, justement, les JO, en dire, bon, ben, c'est jamais que des élections européennes, ça me donne le temps de faire les JO, ouais. Parce que ça remet un peu du baume au cœur, quand même, quand s'il y a des Français qui gagnent, si on va en finale dans certaines épreuves, etc., ça remet du baume au cœur. Tu laisses passer l'été, tu vois la rentrée, comment ça se passe. Mais là, quand même, moi, il va pas y avoir de campagne. Enfin, peut-être que ça sert à rien de faire une campagne, d'ailleurs, mais je sais plus quoi. Je suis un peu décontenancé.
Je vais donner la parole à Pierre-Louis, mais de toute façon, il y a un truc qui est sûr, c'est que quoi qu'il fasse, s'il n'avait pas dissous dimanche soir, lundi matin, je connais bon nombre d'observateurs qui auraient dit... Pourquoi n'a-t-il pas dissous l'Assemblée? Bien Parce sûr, que là, c'est pas possible. Et le lendemain matin, ben, c'est le discours inverse. Il est dans une position où, de toute façon, quoi qu'il fasse, c'est pas bon.
Il est sous pression. Et quoi qu'il fasse, il y a toujours quelqu'un qui ira dire pourquoi il n'a pas fait le contraire.
Exactement.
Donc, c'est un peu le problème.
De toute façon, là, ben,
il est bien français.
Il est un petit peu dans la même position que Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat, que Hollande à la fin de son mandat. Quoi qu'il faisait, de toute façon, c'était pas ce qu'il fallait faire. Pierre-Louis, ta réaction dimanche soir?
Ton intervention est intéressante parce que c'est un petit peu ce que j'allais dire. Parce que je prends pas les choses de la même façon. Je me dis, plutôt que de juger ce qu'il a fait, ne serions-nous pas plus intéressés de se poser la question de ce qui se serait passé s'il avait pas pris cette décision? Moi, j'ai été comme vous, très surpris. Bon, mais... Je ne suis pas dans sa tête. Sauf que quand on connaît bien l'individu, on se dit quand même que c'est quelqu'un qui fait du en même temps, qui essaie de faire plaisir à tout le monde et qui est en même temps un représentant, le représentant de tous les Français. Et je pense que c'est la moins mauvaise, ou plutôt la meilleure des mauvaises solutions. Oui, parce que si...
C'est la meilleure des mauvaises solutions.
Ouais. Si il n'avait pas fait ça... Alors, on serait un peu moins bousculé, mais en fait, est-ce que c'est bien de ne pas être bousculé? Voilà, parce qu'en fait, on continuerait à faire ce qu'on a fait avant, en un peu plus pire, bien sûr, hein, parce qu'on se dirait, mais comment c'est possible qu'il reste président? Comment c'est possible qu'il garde son gouvernement? Le pays est passé à l'extrême droite, etc., etc. Et donc, on serait encore dans plein de suppositions.
Ah, on aurait peut-être ce discours-là autour de la table sur aujourd'hui.
On ne sortirait pas. Parce qu'on n'en sortirait pas. Parce qu'après tout, les gens commencent à se dévoiler, là. Alors que oui, s'il n'avait pas fait ça, Je pense que tous ceux qui sont sortis de là où ils étaient, je parle des partis, et qui sont rentrés dans d'autres, ou qui se font virer, ou qui sont mal barrés, ou qui croient qu'ils ont gagné presque la partie, ou qui pensent, alors qu'ils pensaient le contraire deux jours avant, qu'ils vont bien s'en sortir. Tout ça, ça ne se serait pas passé. On aurait été encore plus sclérosés que ce qu'on l'était avant. Et donc je me dis, finalement, pourquoi attendre ? Enfin, voilà, moi, je suis dirigeant d'une société et je me dis que je préfère toujours regretter d'avoir fait que regretter de ne pas avoir fait. Et quand tu fais rien, c'est que tu fais pas. Donc je me dis, c'est surprenant, mais après tout, bah, c'est un mec futé. Hein.
C'est sûr, il va se passer une chose.
Moi, je vais vous dire la première réflexion que j'ai eue. 50% des gens ne vont pas voter. La plupart des gens sont suffisamment au courant que les sondages se trompent de moins en moins et qu'ils sont de plus en plus justes. Même s'ils instrumentalisent un peu, mais n'empêche, ils sont de plus en plus justes. Ça veut dire qu'il y a 50% des Français qui ont dit « ça ne me dérange pas que le Front National soit premier puisque je ne vais pas voter ».
C'est ton analyse.
C'est ce que je dis.
Ça, je ne partage pas.
30% des 50%.
Je termine, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est ce que je pense moi.
C'est une analyse un peu...
C'est ce que je dirai après, attends.
Ce que je pense moi, et en plus c'est ce que j'ai pensé tout de suite, parce que je suis allé voter en me disant j'espère que ça va pas se passer, mais je n'y croyais pas quand même, parce que l'espérance et la croyance c'est différent, parce que je pensais bien que les sondages auraient raison, et donc c'est pour ça que je me suis dit mais même si c'est plié, je vais quand même voter parce que ma voix elle compte. Donc pour moi, ceux qui ne sont pas allés voter, c'est que ça ne les dérange pas trop que le Front National arrive premier. Parce que s'ils vont tous voter, je suis désolé, ils ne votent pas pour lui, ils ne votent pas pour Bardella, et ils votent pour d'autres, et ça change la donne. Donc pour moi, ils sont complices. Et ceux qui ont voté pour Bardella, donc 30% des autres, ça fait quand même beaucoup de Français.
Il
a fait un score.
Je ne discute pas des raisons pour l'instant. Je discute du nombre.
On nous dit la France est passée côté fasciste. Non, c'est des gens en colère qui ont voté. Et comme tu disais, les gens qui ne sont pas allés voter, qui auraient bien mis un petit bulletin Bardella, mais qui n'ont pas osé par l'acheter, ils se disent bah, finalement, si j'y vais pas, les autres, ils font le boulot pour moi.
Il faut quand même reconnaître que le résultat, le taux de participation des élections européennes, il est bon.
Il n'a jamais été aussi bon.
Les gens se sont quand même mobilisés.
Ça veut dire qu'il y a un message qui a été passé.
Et ça veut dire qu'il y a une certaine colère, une certaine lassitude, et ça, il faut le prendre en compte.
J'avais noté quelque chose
et je te donne la parole tout de suite après. Ma première réaction, moi je me suis dit, c'est très bien, on est en démocratie, il y en a beaucoup qui depuis quelques années imaginent qu'on n'est plus en démocratie en France. Bah, là, la plus belle preuve, c'est qu'on est en pleine démocratie, cette dissolution démontre vraiment le contraire. Hein, quoi de mieux que d'aller voter pour faire passer donc son message. D'ailleurs, on pourra voir que lorsque les électeurs se déplacent aux urnes, comme pour les européennes, pour faire passer un message, bien, ça porte ses fruits. La preuve, il y a eu un fort taux quand même si c'est que 50 et quelques pourcents. Message reçu par le président. Et oui, il a reçu le message. La dissolution, ça prouve bien que ça sert de voter. On entend beaucoup depuis plusieurs années des gens dire ça sert à rien de voter, ça sert. Si, ça sert à quelque chose. La preuve, là, on est en plein dedans. Et oui, et c'est la dissolution. Alors, Jean-Claude ?
Non, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je voulais réagir sur deux points. Rappeler que c'était une élection européenne.
Oui.
Parce que ça, on l'oublie, quoi. On part tout de suite dans les problématiques français-françaises.
Nationales, oui.
Voilà. Moi, n'oublions pas que c'était une élection européenne. Mm-hmm. Bon, ça aurait été une élection législative ou présidentielle, enfin bon, c'est autre chose, mais là, ils tirent les conséquences pour dissoudre, il dissout l'Assemblée sur une élection européenne. Déjà, Alors c'est vrai que ça lui ressemble, puisqu'il aime renverser la table, tout ça. Bon, on l'a encore vu hier dans sa conférence de presse. Il laisse même pas de la place à son Premier ministre, quoi. Alors que ça devrait être lui qui devrait organiser la campagne électorale.
Bah, c'est lui qui va la faire, normalement.
Oui, mais bon, hier, il lui a coupé déjà l'herbe sous les pieds, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, il faisait la gueule hier. Si je ne sais pas si vous avez remarqué, les ministres, ils étaient quand même pas très joyeux. Deuxième chose, quand tu dis les abstentionnistes, En fait, s'ils sont pas allés voter, c'est qu'en fait, ils soutiennent. Ça leur posait pas
les majoritaires.
Ça leur posait pas problème que ce soit Bardella qui soit en tête.
Si tu votes pas, c'est que tu es d'accord avec ceux qui vont voter et qui vont mettre en place ce qu'ils veulent.
Si tu me démontres le contraire, je dirais que tu as raison.
Non, mais regardez les élections depuis des années, quel que soit le niveau de ces élections, il y a toujours 40% de gens qui ne vont jamais voter. Moi, j'en connais, qui ne vont jamais voter. Quoi qu'il se passe dans le pays, vous verrez, il y en aura encore 40% aux législatives qui n'auront pas voté. Alors que
et c'est eux qui vont aller dans la rue pour gueuler.
Ben, peut-être, je ne sais pas, je ne les connais pas.
Peut-être
moi.
Pas tous, mais peut-être certains, oui.
Mais ça veut dire que c'est des gens qui s'en foutent. Ils n'iront pas dans la rue parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Moi, j'en connais.
Alors, c'est qu'ils sont bien installés, qu'ils n'ont pas de soucis.
J'ai dit, aller voter. Ben non, je peux aller voter. Ah bon,
non, puis il y a des gens qui ne sont pas forcément bien installés, comme tu dis, mais qui disent, de toute façon, ça ne change rien.
Voilà. La preuve, si. Si.
Oui,
la preuve, si, ça peut changer.
Oui, tu as raison.
Mais ça peut changer. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un taux de participation qui est légèrement supérieur à ce qu'on... Parce que jusqu'à maintenant, l'Europe, c'était loin. Tout le monde s'en foutait. Mais là, quand même... Alors, est-ce que c'était un problème... Ils ont voté contre le problème national ou pour plus d'Europe? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se sont plus déplacés aux
Ou contre certaines directives.
Ou contre
je pense aux agriculteurs,
par exemple. C'est sûr que la ruralité
a beaucoup d'agriculteurs qui ont voté sûrement
ce qu'on peut savoir aussi, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce déplacement-là, mais n'imagine pas que en allant voter pour l'Europe, ça y ait un impact, que ça ait un impact tout de suite au niveau national. Il faut savoir que c'est quelquefois grand écart entre nos problèmes très locaux, très nationaux, et les problèmes européens, même si c'est lié.
Voilà. Mais c'est un peu ce que disait Patrick aussi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que les gens ont de plus en plus conscience aussi que l'Europe prend de plus en plus d'importance dans nos vies et qu'on est de plus en plus encadré par des lois. On a un peu l'impression aussi que nos politiques, quand ils sont emmerdés, ils disent « Ah, c'est pas nous, c'est l'Europe. »
C'est l'Europe.
On a une directive européenne qui fait que on peut pas modifier ci.
Ou alors on fait de la surtransposition française, ou alors on dit il faut ouvrir à la concurrence parce que c'est européen, parce que
Par exemple, l'électricité. J'entends beaucoup de gens qui me disent autour de moi « Tu comprends, la première décision qu'il faudrait prendre, c'est baisser le tarif de l'électricité. »
Mais si Bardella arrive Premier ministre, il ne pourra rien faire.
Mais ça arrivera en février, parce que Bruno Le Maire, le gouvernement a pris les dispositions, et ils ont annoncé qu'en février prochain, ça baisserait. Donc Bardella, il va dire « Oui, c'est moi !»
Non mais là, en fait, on sème ce qu'on a semé, on récolte ce qu'on a semé, puisqu'on savait très bien, quand on a ouvert le marché de l'électricité, que ça serait défavorable à notre parti, notre pays, puisque nous, on produit l'énergie électrique.
Pour nous faire avaler la pilule, on a dit que c'était une obligation européenne.
Et pourquoi l'Espagne et le Portugal sont sortis du marché? Et pourquoi nous, on n'en sort pas? Il faudra bien qu'à un moment, cette question se la pose. Parce que, effectivement, moi j'ai l'exemple hier d'un salarié qui travaille dans la mutuelle. Il nous a demandé une avance de salaire. Parce qu'il a 2000 euros à payer de facture d'électricité, quoi.
De régularisation.
Il y a un problème chez lui, c'est qu'il vit dans un château, là.
C'est ce que je lui ai demandé de regarder s'il n'y avait pas un problème. Mais c'est pour dire, peut arriver autour de nous, quoi.
Attention, l'ouverture à la concurrence, ça n'a pas eu que du bon. Parce qu'avec certains fournisseurs, ils t'appelaient, ils disaient que tu allais payer la même chose. Puis tu arrivais facture de régularisation, comme sans doute ce monsieur. Boum. Moi, je suis retourné à EDF. Je suis retourné à EDF.
Je vous propose, on va passer à un autre sujet, mais je vous propose d'écouter, parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, un petit passage d'Emmanuel Macron parlant justement de la dissolution.
Je n'ai jamais été là pour protéger le système politique. Parce que, au fond, tout le monde voyait monter l'eau de l'extrême droite. Tout le monde, dans les cafés, dans les coursives, dans vos déjeuners politiques et les offs que vous faites avec les responsables politiques, je les lis dans vos colonnes. Tout le monde disait, l'extrême droite arrive, en 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen, c'est déjà écrit. Mais tout le monde y allait de ses petits calculs, chacun tirait ses bords, chacun menait sa barque. Ben non, moi je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50% des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire « on continue comme si de rien n'était ». Ce n'est pas les respecter, ce n'est pas les entendre. La deuxième chose, c'est que je veux qu'il y ait un gouvernement qui puisse agir pour répondre à leur colère et à leurs urgences. Et puis la troisième chose, c'est que comme président de la République, le jour d'après ces élections législatives, j'aurai, comme le veut la Constitution, à tirer les conséquences et à choisir un Premier ministre. Mais ce n'est pas donner les clés du pouvoir, c'est permettre de gouverner à des forces politiques qui auront été choisies par les Françaises et les Français. Vous êtes tout de même des drôles à penser que ce serait forcément l'extrême droite ou les extrêmes. Ou alors vous avez l'esprit de défaite répandu partout. Si les gens ont peur de cela, ben le sursaut c'est pour maintenant. C'est bien. Voilà. Donc j'assume tout cela. Parce que c'était tout cela qui était en train de se faire sourdement. Et donc je pense que la clarification c'est maintenant.
Oui, la clarification, c'est maintenant.
Oui, c'est vrai, là, moi, j'ai, voilà, elle a raison.
Moi, j'ai la première phrase que j'ai en tête, c'est il te dit, je ne veux pas donner les clés de l'extrême droite en 2027.
Il la donne maintenant, les clés.
Donc, ça veut dire qu'en gros, il est prêt à avoir une période pour les discréditer. Après, la deuxième partie, c'est qu'il va nommer un Premier ministre. Mm-hmm. S'ils ont l'Assemblée, la majorité absolue, il sera obligé de mettre Bardella.
Ça sera compliqué d'avoir la majorité absolue.
Voilà, mais s'il ne l'a pas, effectivement, à Otto Bardella, il va peut-être trouver un consensus sur un Premier ministre.
Ce qui risque de se produire, c'est que la France risque d'être encore plus ingouvernable après les législatives qu'aujourd'hui.
Oui. Oui.
Et c'est ça qui risque d'arriver.
C'est Bardella qui prendra le 40.
Et pour quelqu'un qui a tout analysé, qui a bien compris, parce qu'il est très fort en communication quand même. Hein. Ouais. Il est très très fort pour retourner la situation en sa faveur. Ouais. Il est quand même très fort en communication. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a pris conscience du problème, si demain le problème il est toujours qu'il n'y a pas
de
majorité à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui lui reste comme solution?
Il ne peut pas redissoudre. Hein.
Il ne peut pas redissoudre, mais peut-être qu'il peut démissionner.
Il a droit
aussi.
Une fois par an.
Il peut peut-être démissionner. Moi, je ne le vois pas arriver au bout de son mandat, hein, s'il va jusqu'à ça, s'il raisonne comme ça.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une majorité absolue et qu'une majorité relative ne te permet pas de faire quoi que ce soit que la France va s'arrêter d'avancer. Mmh. Parce qu'après tout, ce qui va se passer dans le peu de temps qui nous reste... je crois 2 ans.
3 ans.
3 ans.
Ouais, ouais.
3 ans. Pas tout à fait.
Ouais.
Pour les prochaines élections présidentielles, où tout rechangera, ou alors 1 an après, pour d'autres législatives, parce que ça ira vraiment mal, il va rien se passer, mais c'est pas grave. Finalement, au fond, c'est peut-être ce que les Français veulent. Et si les Français veulent qu'il se passe quelque chose, alors les accords qui sont en train de se faire là, ils seront cassés, ou alors il y aura d'autres accords. C'est-à-dire qu'il y a les accords pré-élection, et si, avec ces accords pré-élection, il n'y a personne, comme je le pense, qui aura une majorité absolue, et il n'y aura que une majorité relative, eh bien, s'ils n'arrivent pas entre eux à s'organiser autrement pour sortir un certain nombre d'accords, eh bien, il ne se passera rien. Alors, est-ce que c'est grave ou pas grave? J'en sais rien, mais enfin, il vaut mieux qu'il ne se passe rien si ça plaît... à personne, que des gens passent en force et que
ça passera des choses.
Par contre, les affaires courantes.
49-3. Non. Pierre Louis.
Il y aura du 49-3, ils seront obligés.
Ben oui.
Ils seront obligés.
Mais non. S'ils ont une majorité de... Enfin, plus hétéroclite, là, qui vont... Toutes les planètes qui vont s'associer.
Le RN aura pas d'alliés.
Je ne parle pas du RN. Peut-être qu'ailleurs, c'est ce que disait Pierre Louis, il y aura peut-être une
coalition de bon
coalition,
sens.
De fait.
De
et
bon
qui,
sens.
Et qui finalement, ça sera, on naviguera un peu en autre.
C'est là où, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que la gauche, elle fait une vraie erreur d'aller avec LFI.
Alors, on va en parler.
Attends,
Tobias. La gauche. On parle. On y va. On y va. Tu vas y aller.